Parce qu'à ce moment-là, tu te dis, mais en fait, c'est la peur de mourir de faim, en l'occurrence, qui me fait bouffer avant d'avoir faim. Le vélo est une expérience à cet endroit-là pour te rendre compte que, en fait, dans un milieu qui te semble a priori hostile avant de partir, en fait, t'as pas besoin de grand-chose.
Bienvenue, Jeanlin, sur le podcast. Très heureux de t'accueillir.
Merci beaucoup, merci de ta proposition aussi à toi Loïc.
Je t'en prie, ça fait plaisir, hein. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas retrouvé, donc très content d'avoir l'opportunité d'échanger sur tes dernières aventures.
Ouais.
Tu vas nous en dire plus, je ne vais pas faire de spoil, mais ça s'annonce croustillant. Je salue d'ailleurs Arnaud, il va vraiment falloir que j'arrive à lui mettre la main dessus pour qu'on fasse un épisode, mais l'aventure que tu vas nous partager, entre autres, c'est quelque chose que tu as vécu avec lui. Donc,
absolument.
Ça sera vraiment intéressant de voir un peu comment vous avez monté ça. Écoute, sans faire plus de spoil, encore une fois, je te laisse peut-être commencer par te présenter.
Ouais. Moi, je m'appelle Jeanlin. J'ai commencé le vélo il y a 7 ou 8 ans à peine. Même pas. J'ai un profil commercial, je travaille dans le retail, comme toi d'ailleurs, on a un employeur en commun. Et puis depuis, on a un peu vagabondé chacun de notre côté. Et moi, j'ai réalisé en fait en juin 2020 un tour de France en suivant les frontières et la côte française. Donc ça fait 5000 km à vélo. En toute autonomie pas sur un coup de tête avec un projet derrière tout ça. Alors comment c'est pour la présentation un petit peu brève, donc voilà, je suis pas un sportif de haut niveau, loin de là, mais je me suis entraîné en fait pour faire pour réaliser ce challenge. Ouais, voilà, vraiment.
5000 km que vous avez fait avec Arnaud en une vingtaine de jours, c'est ça, hein?
Ouais, 21 jours. Peut-être qu'on peut dire quand même que Arnaud, toi et moi, on avait un employeur en commun et on a travaillé dans le même magasin il y a quelques temps de ça. On a en commun quand même des profils. On a des profils un peu sportifs et un peu des trucs un peu de frappadingue, hein, pour être clair. Toi, t'as un niveau haut professionnel sportif et puis t'aimes quand même courir. Arnaud, il a traversé les US dans une course qui s'appelle la Race Across America, la RAM. Et moi, j'avais comme projet en fait cette année, j'ai pris un peu de temps pour ma vie perso et puis réalisé un projet qui me tenait à cœur, qui était un peu fou, qui était de traverser les États-Unis d'ouest en est sur une course qui s'appelle la Trans American Bike Race. Qui fait 6800 km et qui traverse les US. Juste ça, tranquillou.
Voilà, la balade du dimanche.
Voilà, ça c'est pour le dimanche après-midi devant un café. La pandémie arrivant, eh bien, ma course a été annulée. J'annonce ça à Arnaud, avec qui on avait roulé un peu l'hiver pour s'entraîner ici et là. Et il me dit, je suis désolé, Jeanlin. Remets-toi bien. Et je savais que lui devait participer notamment à la TCR, la Transcontinental Race, qui est une course de vélo aussi, sans assistance, qui traverse l'Europe, et qui fait globalement 4000 bornes. Et malheureusement aussi pour lui, trop de semaines après, 10 jours après, je sais plus, la TCR est aussi annulée, la North Cape, qui est une autre course de 4000 bornes, qui est annulé aussi. Bref, on met un peu de temps à s'en remettre, on discute, on échange, patati patata. Et comme j'avais un petit peu d'avance sur lui dans mes émotions, passer la frustration et puis l'exaspération. Je veux dire, ça faisait quand même un an que je me préparais physiquement et matériellement parlant pour ce projet-là, et subitement du jour au lendemain, en fait, on t'annonce que ciao, bye bye, quoi, en gros.
Oui.
Donc j'avais par ma curiosité en fait, j'avais eu vent d'un autre truc qui s'appelait le Tour de France de l'US Métro, j'en ai pas parlé à Arnaud tout de suite. En fait, je lui ai dit, écoute, remets-toi ton truc, de ta frustration, de tout ça, la tristesse, tout ce que tu veux, et puis on en reparle ensemble.
Peut-être déjà sur ce point, Jeanlin, pardon, je te coupe, mais c'est hyper intéressant parce que, bon, ça, c'est vos projets, vous avez vécu, on va dire, comment on appelle ça, side effect.
Ouais.
Les effets. Ouais, exactement. Merci. Les effets secondaires du Covid dans vos disciplines à vous, mais je pense que c'est intéressant de voir un peu comment est-ce que toi tu as géré. Tu disais que tu as eu un peu d'avance sur lui par rapport à ta frustration, la gestion émotionnelle, etc. Mais il y a plein de. Enfin, on est un petit peu tous impactés par ça, donc je suis curieux de savoir. Comment ça s'est passé en fait cette digestion de la nouvelle de l'annulation de la course?
Je crois que la première chose que j'ai faite, c'est déjà de bouffer. Ouais. j'ai pris une bière et je crois que j'ai bouffé. je dis ça sur la plaisanterie, mais il y a un peu de ça. Parce que finalement, ça a été un moyen de relâcher et de sortir en fait une frustration, alors en la bouffant aussi, mais il y a quand même de ça. Ça a été un exutoire, quoi, véritablement, parce que sincèrement, lorsque tu fais gaffe à ce que tu bouffes, tu fais gaffe à bien faire tes exercices que ton coach t'a filé pour préparer ceci ou préparer cela, les exercices spécifiques, le renforcement musculaire, le machin, le ceci, enfin bref, tu mine de rien, tu te mets quand même une sacrée pression, parce que la Transamerican Bike Race est une course, donc t'as envie de faire quand même bonne figure, même si je prétendais pas du tout à un top 10, mais en tout cas j'avais l'intention de faire une bonne figure, voilà. Mais tu te mets quand même, il y a une dose de plaisir, parce que moi c'est j'ai toujours voulu réaliser un truc complètement dingue depuis que j'étais gamin. Donc il y a vraiment cette dose là, et cette dose là te dit, enfin cette dose de plaisir que t'es prêt à prendre, et le shoot de kiff que t'es prêt à prendre, et ben il a plus lieu.
Ouais.
Et là t'as un espèce de, tu vois, ça s'entendra je pense à l'enregistrement, mais tu vois il y a cette espèce de blanc, du coup t'as plus rien, t'as plus de projet, donc t'as un vide. Et en fait, arrivé dans ce vide là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là-dedans, quoi, c'est quoi, et ça m'a reposé la question, mais pourquoi est-ce que je voulais faire la Transamerican Bike Race? Parce que c'était un truc fou, ok, c'était aux US en plus de ça, je connaissais pas les US, ça me permettait de voyager au milieu, ok, il y avait plein de choses qui venaient de se greffer, qui étaient plutôt sympas et cool, et je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est les États-Unis qui est important? C'est quoi ma priorité? Ma priorité, est-ce que c'est les États-Unis ou c'est le fait de faire un truc qui est ouf? Pour moi, en tout cas, hein, pour mon niveau d'expérience, ma préparation et tout ce que tu veux. Et en fait, je me suis raccroché à cette priorité, mon sens de priorité qui m'a dit, bah moi, ma priorité, c'est de faire un truc ouf. Et coup de bol, dans mon entourage, quelqu'un m'avait, je ne sais plus qui, m'avait parlé du Tour de France randonneur de l'US Métro. Et donc, c'est une épreuve qui est reconnue auprès de la Fédération française de cyclotourisme. Ça, c'est la première chose. C'est une épreuve qui existe depuis la fin des années 50, début des années 60. Donc, c'est une épreuve qui fait partie du paysage et de l'héritage cyclotouristique français qui est extrêmement important et qui a inspiré beaucoup d'autres à travers le monde. Hein. Faut juste avoir ça en tête. Et à partir de ce moment-là, je me suis penché un peu sur le parcours pour comprendre de quoi il s'agissait. Donc suivre les côtes et les frontières de la France, on voit globalement à quoi ressemble notre hexagone, on voit à peu près de quoi il retourne, mais si je te dis signer l'abbaye, ou bien si je te dis j'en sais rien moi, arc la bataille, ça va pas te dire grand chose. Et là, ça commence à devenir intéressant. Je me dis, mais où sont ces petits points reculés de la France? et tu commences à ouvrir tu ouvres une carte, quoi. Donc, tu vas sur Google et tu tapes ta carte et tu regardes ce qui se passe. Et puis, tu te rends compte que le projet est quand même pas mal. Le voyage a l'air top. La distance, 5000 bornes, t'as le temps de voyager. C'est pas une course, mais tu peux le faire en mode sportif, tu fais un peu comme tu veux. Donc, il y avait un défi sportif qui était présent. Et puis, 5000 bornes, quand même, lorsque tu as fait 1200 bornes dans ta vie au maximum, bah, finalement, ça fait quand même ça fait un beau gap, quoi. Et c'est comme ça, en fait. Donc, tu vois, il y a eu ce phénomène de frustration, de digestion de la frustration. Je me suis retrouvé un peu dans le vide sans projet en disant, ben, tout ce que j'ai fait, comment j'utilise ce que j'ai préparé pendant le reste de l'année pour l'utiliser, comment je le mets en œuvre, comment je le mets en, en action, en forme, tu vois. Et c'est là où ça m'a véritablement aidé, c'est de passer l'étape d'après, c'est de me dire, bah tiens, après, c'était de rebondir sur mon acquis, sur mes priorités, et de me dire, bah tiens, ça, ça peut être pas mal, et ça rentre en plus, ça, c'est dans la, en France, donc il n'y a pas besoin de passer de frontières, donc au niveau des, et de la pandémie, ça correspond, ça matchait bien aussi avec ce truc-là. Et puis, et c'est comme ça, en fait, que je me suis dit, ça, c'est un beau projet, il y a quand même 5000 bornes. On a rajouté 2-3 cols au milieu avec Arnaud. En fait, j'ai proposé à Arnaud et puis moi j'avais rajouté des cols avant. Et puis on a, c'est comme ça qu'on l'a fait. Et c'est, je regrette absolument rien, quoi. C'est somptueux, c'est somptueux.
C'est génial de voir que, oui, comme tu dis, en fait, t'as su rebondir. Alors moi, ce que j'ai entendu, c'est quelque part, enfin, ta motivation profonde, c'était quoi que tu rattachais à ce projet de course aux États-Unis, de traverser les États-Unis en autonomie. Et comment tu as su, tu vois, identifier ça et une fois que tu l'as identifié, bah, trouver le projet qui pouvait répondre à tous les critères que tu mettais derrière ce rêve, mais qui soit plus réaliste compte tenu de la situation avec le coronavirus. Hyper intéressant. Ouais. Et il t'a fallu combien de temps avant qu'on rentre dans le détail du projet, du coup, pour digérer, on va dire, la nouvelle?
Écoute, je crois que j'ai appelé Arnaud 4-5 jours après.
Ah ouais, ouais, donc ouais, t'es allé vite, t'as pas perdu de temps, quoi.
Non.
Ouais, ah, c'est une bonne leçon, je trouve. Tu vois, rebondir tout de suite.
Ouais, ouais, je crois que ça m'a pris 4-5 jours. Ouais. Peut-être, enfin, tu vois, une petite semaine, quoi, en gros.
Ouais, ouais, ouais.
Pas exact, mais globalement, un peu moins d'une semaine. Parce que Arnaud a eu sa réponse, a eu l'information 10 jours après. Moi, je lui en avais parlé déjà 2-3 jours avant, tu vois. Donc, c'est ça, entre 5 et 6 jours, enfin, entre 5 et une semaine, entre 5 et 7 jours, quoi.
Ah, hyper intéressant, hyper intéressant. Surtout, comme tu dis, j'imagine que la frustration devait être intense parce que tu avais passé un an à préparer cette course.
Ouais,
ouais, ouais. T'es allé vachement vite pour tourner la page. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, je m'en rends pas complètement compte, mais en fait, le recul en t'en parlant là, effectivement, ouais.
Ouais. Bon, et si on parle du projet, 5000 km, tu nous as une vingtaine de jours. Le dénivelé, tu l'as encore en tête à peu près?
Je crois qu'on a fait un peu plus de 60 000 mètres de dénivelé.
Ah ouais, oh la vache, ok. Ouais. Ok, ouais, ok. Ouais. Ouais. Donc, ok, donc 5000 km, 60 000 mètres de dénivelé, 20 jours. Ouais. Ça a été quoi, du coup, alors, peut-être a priori, c'est-à-dire avant que vous vous lanciez dans le projet, c'était quoi pour vous les gros points, peut-être pas d'inquiétude, mais ouais, les aspects du défi, on va dire, qui vous faisaient un peu peur?
Arnaud avait une deadline qui était au 28 ou 29 juin, je ne sais plus, parce qu'il devait suivre une formation. Et en fait, donc son inquiétude à ce moment-là était de dire, est-ce que je vais arriver en temps? Moi, mon inquiétude, elle n'est pas arrivée avant de partir. Elle est arrivée plutôt... Enfin, c'est pas bon. Non, c'est faux ce que je dis. La première inquiétude que j'ai eue, c'est de dire oh, dans quoi je me lance, tu vois, l'inconnu complet. C'est, j'ai l'impression, tu sais, d'être un. De voir une carte postale de la France devant moi en disant je vais vraiment faire tout ça. Il y a un côté un peu enfantin, je suis, tu vois, ou naïf, voilà, plutôt naïf. Ouais. En fait. Devant l'immensité de ça, Arnaud avait déjà, tu vois, réalisé ce genre de distance, mais moi, pas du tout. Donc, il y avait un côté un peu naïf en disant, mais tiens, comment ça se passe après, tu vois, après, mais après quoi? Après le deuxième jour, le huitième jour, le quinzième, le vingtième, avant? Enfin, tu vois. Donc, c'était un peu, il y a un côté, et c'est ça que moi, j'ai trouvé délicieux aussi, hein. C'est de retrouver dans cette forme d'innocence, parce que même si tu t'es préparé et tout ce que tu veux, il y a de retrouver cette petite espèce d'innocence de la découverte qui est absolument, enfin, pour moi en tout cas, un goût merveilleux, quoi. Après, chacun son truc, mais voilà, pour moi, ça a été un bonbon, quoi, vraiment.
Ouais, je me reconnais bien là-dedans aussi. C'est clair que ça devait être, enfin, hyper excitant de te dire, bon, voilà, c'est parti, je vais découvrir, enfin, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Et peut-être de le faire, de le partager en même temps, j'imagine, parce que vous connaissiez déjà avec Arnaud, donc il y avait, j'imagine, cette notion derrière.
Ouais, absolument. Je crois qu'il y a eu plusieurs. La notion de partage est une évidence, mais il y a aussi le fait d'arriver à une forme d'essentiel. C'est-à-dire que au fur et à mesure du parcours, en fait, on s'est dit, ah bon, tu vois, au début, on avait pris des sacs de couchage, un sac de couchage, un matelas, des vêtements un peu plus chauds, patati patata. Et puis, au fait, au troisième ou quatrième jour, on les a renvoyés par la poste en disant, non, mais ça sert à rien, on prend du poids pour rien. Et lorsque tu fais ça, ça veut dire que tu as suffisamment confiance, parce que tu sais que tu trouveras un lieu pour pionter, j'arrive plus à parler, pardon, pour dormir, il y a un autre mot, pour pioncer et pour dormir donc facilement. Donc ça, c'est l'expérience qu'on a eue sur les premiers jours. Et donc tu lâches une partie de contrôle que tu as amené avec toi aussi.
Ah, intéressant.
Donc tu lâches complètement ça. Et tu te dis, bah, je sais que je suis convaincu que dans les jours qui viennent, je vais pas m'en trouver dans la panade parce que j'aurais lâché mon sac de couchage. Parce que
Et
je
vous
pourrais
avez
dormir.
réussi vraiment sur les 17 jours suivants, après les avoir renvoyés, à trouver à chaque fois un toit, un lit. Ah ouais, ah, c'est hallucinant ça.
Donc tu vois, et c'est là où tu te rends compte que finalement tu es accroché. Si tu extrapoles un tout petit peu et on sort juste un instant du cadre du vélo, en fait, le vélo est une expérience à cet endroit-là pour te rendre compte que, en fait, dans un milieu qui te semble a priori hostile avant de partir, en fait, t'as pas besoin de grand-chose. Bien sûr, tu as un vélo, bien sûr, tu as des pompes, bien sûr, tu t'es entraîné, bien sûr, tu as de la flotte, bien sûr, tu as de la bouffe, bien sûr, tu as une carte bleue, tu as un téléphone. Voilà. Mais lorsque tu y penses, lorsque tu fais le chemin inverse et que tu regardes un type qui s'appelle Pascal Plaine, qui est décédé malheureusement, qui a fait le Tour de France, je ne sais plus combien de fois, 10 ou 15 fois, il faisait tout ça sans téléphone, sans GPS. Et avec des cartes. Donc, et en revanche, lui avait gardé son matelas et un sac de couchage pour faire le Tour de France. Donc, ça mène exactement en sens inverse de nous. On a gardé nos GPS, nos téléphones et on a lourdé le reste. Donc, ça veut aussi dire, tu vois, ça prouve encore à quel point on était quelque part un peu attaché à nos téléphones. Alors, on était tous les deux ravis, lui d'avoir ses enfants en FaceTime et moi d'avoir ma femme au téléphone. Et puis, eux avaient été heureux quand même d'avoir de nous de nouvelles pour savoir pour leur dire qu'on allait bien, quoi, tout simplement.
Ouais.
Mais ça te pose encore des questions sur qu'est-ce que tu es prêt à lâcher.
Ouais. Mais alors justement,
Et quelle est
il n'y a pas une
la force de
précision.
l'environnement aussi?
Pardon, vas-y, vas-y.
Quelle est la force de l'environnement, c'est-à-dire ta femme, tes enfants, tes potes, si t'es pas marié, ou ton copain, ou ta copine, peu importe, sur toi, c'est-à-dire jusqu'à quel endroit t'es prêt à lâcher ça? C'est une autre histoire, hein?
Ouais, non, clairement, ouais. Tu vois, là, spontanément, si je m'imagine sur des trips un peu longs que j'ai fait, s'il avait fallu que je lâche mon matelas, mon duvet, ma tente pour... J'ai jamais fait un truc comme ça, hein, mais du coup, que je dépende quelque part, tu vois, c'est comme ça que je vois spontanément, que du coup, je dépende de l'aide d'autrui.
Eh oui.
Ouais, j'avoue que c'est pas évident, tu vois. Il n'y a pas une forme de pression associée à ça? Comment vous organisiez, du coup, vous rouliez jusqu'à une certaine heure et après vous cherchiez un toit ou ça se passait comment?
Exactement. Ouais.
Ok.
Ouais, tout à fait. Et après, tu as de merveilleuses applications Booking pour ne pas la nommer, pour trouver un truc rapidos. Et tu trouves, en fait.
Ok.
Tu trouves.
Ah oui, d'accord, ok, ouais. Donc vous comptiez pas uniquement sur la générosité de gens qui vous hébergeaient comme ça spontanément.
Non, non. Et c'est
Ok.
là aussi, qu'est-ce que tu lâches, tu vois, qu'est-ce que tu laisses tomber.
Ouais.
Donc il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Là, on parle d'un matelas et d'un sac de couchage, mais maintenant tu peux aller un peu plus loin parce que est-ce que tu as vraiment besoin de trois shorts ou deux shorts, peu importe, et deux maillots. Est-ce que tu peux en garder qu'un seul et trouver un moyen de faire une machine une fois de temps en temps? Toi, tu peux. Qu'est-ce que tu décroches de toi? De quoi n'as-tu pas besoin? Ou de quoi as-tu besoin? Formule-le comme tu veux, mais dans les deux, dans les deux cas, c'est ce que tu gardes à l'essentiel, quoi.
C'est vraiment intéressant, comme tu dis, ce retour à l'essentiel. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez anticipé tous les deux, ou ça a été une espèce de découverte, une prise de conscience après quelques jours? De façon générale, hein, parce que tu as dit que le matelas est arrivé au troisième jour, et visiblement, c'était plutôt, vous l'avez réalisé à ce moment-là, mais de façon plus générale, ça s'est passé comment?
De façon plus générale, en termes d'organisation, tu veux dire?
Ouais, c'est cette notion de, tu vois, retour à l'essentiel, c'est quelque chose que vous avez cherché à faire au-delà du matelas et des duvets que vous avez renvoyés, ou...
Pour moi, c'est vraiment, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est vraiment apparu au fur et à mesure, et je me suis dit, mais en fait, tu vois, dans les choses essentielles, bien sûr, ma femme, bien sûr, ma famille, bien sûr, mes potes, bien sûr, ceci, bien sûr, cela, ok. Mais en fait, ce qui m'a été surtout important, c'est de dire, mais en fait, lorsque tu fais un effort physique aussi important, au début, par exemple, je vais te prendre un autre exemple, on parle de la bouffe. Parce que lorsque tu fais un effort physique de 250 bornes ou 300 bornes, peu importe, en fonction des journées, ou 150 en fonction des journées avec beaucoup de dénivelé, tu bouffes. Parce que tu as peur de crever la dalle.
Ouais.
Et ton hypo une heure et demie après le début de ton col. Ou bien parce que il va faire froid, ou parce que tu vas monter ou en altitude, ou pour une raison ou pour une autre. Bon, ok, très bien. Et puis, subitement, tu te rends compte, parce que tu as eu l'expérience suivante la veille ou l'avant-veille, finalement, tu as fait 100 bornes en bouffant beaucoup moins que la veille, et puis finalement, tu n'es ni tombé dans les pommes, tu n'as pas été moins performant, et puis ça se passait bien. C'est intéressant, hein?
Ouais.
Comme expérience. Parce que à ce moment-là, tu te dis, mais en fait, c'est la peur de mourir de faim, en l'occurrence, qui me fait bouffer avant d'avoir faim.
Ça me fait penser à ce qu'Arnaud disait dans l'épisode que vous avez fait tous les deux sur son podcast. Lui, c'était le froid, je crois. Hein. C'est pareil. C'était fascinant de l'écouter dire que il se surcouvrait. Il a en fait sa peur à lui, sa terreur, c'était le froid. Et il avait déjà partagé aussi qu'il voyait sur le comme il organise la Race Across France pour ceux qui connaissent pas, c'est une course de vélo qu'Arnaud Manzani organise en France qui avec plusieurs formats, mais je crois que le plus long est à 2200 ou 2400 km. 2006, les 200 de plus comptent. Et il expliquait en fait que sur très rapidement au départ pour les gens qui avaient peu d'expérience, c'était assez flagrant de voir que ouais, après 100-200 km, il y avait pas mal de participants, encore une fois peu expérimentés, qui étaient complètement saturés en sucre. Parce que le réflexe était, j'aurai pas d'énergie, ça va pas y aller, je bouffe. Alors qu'en réalité, ça a plutôt l'effet inverse. Le pouvoir du cerveau, c'est fou. Hein.
C'est fou. Et c'est là où, et tu vois qu'il y a toute... toi qui fais un peu d'études dans... en coaching et toutes ces choses-là, mais ça peut être pris comme surmonter une peur connue, type Arnaud, j'ai peur d'avoir froid, mais ça peut être aussi quelque chose dont tu prends conscience au fur et à mesure que tu as l'expérience de ton aventure. Repartir à l'essentiel, pour moi, c'est de dire, mais en fait, qu'est-ce que je prends dans la vie de tous les jours, ou qu'est-ce que j'achète, ou qu'est-ce que je mange, ou qu'est-ce que j'ingurgite. D'une manière ou d'une autre, ça peut être des fringues, des vélos, des je sais pas quoi, enfin ou des planches à voile, enfin tu vois. Mais de quoi je m'agrège ou de quoi je m'alourdis et dont finalement je n'ai pas besoin.
Et qu'est-ce que ça a changé pour toi si t'es ok pour le partager après cette expérience du coup?
Oh ben j'ai vendu plein de trucs dont j'avais pas besoin, tu vois, je me suis séparé de. J'ai arrêté de bouffer plein de trucs, je bouffe beaucoup moins, j'ai pas maigri pour autant, mais j'ai bouffé. il y a des choses dont je me délaisse.
Ah, c'est génial de voir qu'il y a eu des enseignements et tout de suite de la mise en pratique après l'expérience.
Et puis là, tu vois, pour te donner une idée, je cherche du boulot en l'occurrence, je suis ravi d'avoir eu les expériences professionnelles que j'ai eues auparavant, mais là, je cherche quelque chose de beaucoup plus essentiel, tu vois. Et il y a deux choses qui me tiennent à cœur. J'ai un projet de boîte de vélo et puis de trouver un truc dans lequel je me retrouve, tu vois, clairement. Et qui soit qui soit pas du tout qui soit essentiel à la vie. Voilà, c'est plutôt ça. Il y a une forme de simplicité en fait qui dans mon cas hein, Arnaud il te le dira autrement, mais pour moi dans ma situation en tout cas, ça a été vraiment une forme de transformation au niveau de la simplicité, de qu'est-ce que je garde dans ce que j'ai vécu. J'ai appris que j'avais plus forcément besoin d'énormément de choses pour vivre tous les jours, que ce que j'arrête de faire. Est-ce que j'ai besoin de partir, j'en sais rien moi, enfin, je sais pas, une semaine au ski, 2 semaines à Tenerife pour faire de la planche à voile, et puis une semaine, j'en sais rien, ou 2 semaines j'en sais rien, en Martinique pendant les vacances. Ce que j'ai jamais fait, hein. J'ai jamais fait ces trucs-là auparavant, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est indispensable ou pas? Est-ce que j'ai besoin de ça pour vivre? Est-ce que ça me nourrit, tu vois, ou pas?
Waouh. À quel moment t'as eu justement cette prise de conscience que ce Tour de France, il a été plus qu'un élément sportif,
Ouais.
mais visiblement, j'ai l'impression, enfin carrément un milestone perso, quoi.
Ouais. Il y a eu 2 ou 3 moments. Un des premiers, ça a été un. Ça, c'était avec Arnaud qu'on l'a vécu. Je crois que c'est le troisième jour lorsqu'on arrive du côté au nord de Metz. On est accueilli par une personne qui s'appelle Pascal Semet, qu'on connaissait absolument pas, hein, que Arnaud ni moi n'avions rencontré, qui vient à notre rencontre. Il fait nuit, il est 22 h, il vient à notre rencontre. On avait vécu un coucher de soleil, pardon, extraordinaire sur les hauteurs. La nuit tombe Pascal Semet arrive en vélo avec sa lampe, sa dynamo et tout ce qu'il faut. Il nous a dit: Ah, je vous attendais. Venez, on vous a préparé un repas à la maison avec ma femme, vous venez dormir à la maison.
OK.
Authentique, hein. Authentique. Un gars extraordinaire, et depuis on est resté en contact évidemment, et qui nous a accueillis comme ça. Et ce moment-là où alors que tu t'y attends pas, il est 22 h, tu t'es pris du vent dans la tronche pendant 320 bornes ou 340 bornes, je sais plus. Quelqu'un vient t'en rendre compte, t'as un phare qui s'allume juste en face de toi dans la nuit profonde et qui te dit dégouffer à la maison, tu te dis waouh! Tu vois, les bras en fond, mais t'es touché, tu te rends compte, enfin, tu vois, enfin, je veux dire, Arnaud et moi, on fait du vélo, on aime ça, on organise des courses, machin, ok, très bien, et enfin, tu vois, tu te rends compte de la gentillesse.
Ouais, c'est plus que du vélo là, c'est de l'humain.
C'est l'humain, ouais. C'est du cœur, là, point barre, point barre.
Ouais.
Ça a été un des premiers moments. Un des seconds moments, ça a été dans la descente du Ventoux. On arrive en haut du Ventoux avec deux Marseillais, dont l'un d'entre eux, Seb, avec qui on s'est bien marré, on a raconté des conneries tout du long de la montée, et qui arrivait en haut. On les salue et tout, ils nous avaient accompagnés pendant, je sais plus, 150, 180 bornes. Et on les laisse juste au moment où le soleil va tomber, ouais, tombe. Et dans la descente du Ventoux, moi j'en ai pleuré d'émotion, et vraiment, hein, des larmes aux yeux, hein, de voir la beauté du soleil en train de descendre. J'en ai gardé des photos, c'est somptueux, absolument somptueux. Bon, je me suis arrêté, je sais plus, 2 ou 3 fois avec Arnaud, pour voir, tu vois, juste pour voir le soleil se coucher, quoi, c'est tout.
Ouais. Bon, je suis pas surpris, c'est dans le sud, hein. Le sud, c'est magnifique. Enfin, c'est à
Ouais,
la
mais toi,
frontière sud, mais bon,
c'est pas
ça
mal, j'ai
reste
tout le
magnifique.
monde. Je crois que je t'ai pas vu venir.
Ouais,
Non, mais c'était absolument. Enfin, tu vois, quand ça. Il n'y a pas beaucoup de moments où ça m'a pris d'un point de vue émotionnel comme ça. Enfin, je veux dire.
ouais.
C'est une larme physique, hein. C'est pas une expression au second degré, c'est au premier degré, hein. Parce que c'est beau, c'est autre chose, hein, pour moi. Ça c'était un second très très grand moment. Et le troisième moment, c'est lorsque j'ai retrouvé des copains. En fait, j'ai retrouvé des copains dans les Pyrénées qui sont venus rouler avec nous le col d'Aspin. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le col d'Aspin, Tourmalet, et on en a fait un troisième juste avant, Père-Sourde évidemment, et qu'on a fait avec eux. C'est des copains que je n'avais pas vus depuis 2 ans facilement, et on s'est retrouvés, et j'avais la joie d'un enfant qui retrouve... vraiment la spontanéité d'un enfant, tu ressens ouais. Ça véritablement, c'est assez magique, et c'était un grand moment de bonheur pour moi de les retrouver, et ça fait aussi, tu vois, je te parlais des choses essentielles, ben ça c'était essentiel, ouais. Clairement. Après, donc voilà, c'était toi ces trois choses, trois moments en tout cas qui m'ont clairement vraiment marqué, ouais vraiment.
Super. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est. On sent quand tu les évoques ces trois moments-là, ça a été émotionnellement, ça a été quelque chose. Hein.
Ouais. Et je trouve que c'est ce. Dans mon cas, en tout cas, ça aurait été vraiment d'être capable d'apprécier et de laisser de la place aux émotions, tu vois, dans mon corps, si je puis dire, pour les laisser vivre. Mmh. Et ouais, tu peux le conceptualiser, tu peux l'intellectualiser, tu peux le machin, mais de sentir pris par la beauté d'un spectacle, que ça soit avec des personnes ou bien juste devant un coucher de soleil, ben ouais, c'est pas la même expérience, quoi.
Tu penses que tu aurais eu cette capacité à laisser la place aux émotions et à les écouter si vous aviez été dans un état d'esprit plus compétition, faire un chrono, faire un record
Non.
Ouais.
Non, tu dans ce cas-là, tu regardes pas le coucher de soleil, en fait.
Ouais. Ouais. Non, mais c'est intéressant.
C'est où tu le regardes d'un coin d'œil en disant tiens, c'était pas mal, et puis après tu traces ta route, quoi. Mais tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas, quoi. Un autre moment, je vais donner un autre exemple. Lorsqu'on part du Mont Ventoux pour aller en direction de Saint-Chinian, donc c'était une journée où c'était la première journée de grosse chaleur, vraiment. On s'est pris du vent, grosse chaleur, et Arnaud commençait à avoir sacrément mal aux pieds, pied droit notamment, même pied gauche aussi, tu me diras. Et on arrive dans un patelin qui s'appelle Saint-Martin de Londres, que tu connais peut-être toi du côté de Montpellier. Tu m'entends ?
Non, ouais, non. Mais non, je connais pas.
Ouais, parce que mon truc c'est arrêté. En fait, on voit une énorme route droite, 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 droite qui arrive dans un patelin, et on devine trois énormes platanes au fond. Il fait 35 degrés. On nous a pris pas mal de voitures, on est un peu fatigué quand même. On arrive un peu avant le 10e jour de course, ou à peu près, ou de rando. Et on voit trois énormes platanes, une fontaine d'eau fraîche, un troquet à l'ombre, et une boulangerie.
J'imagine déjà la suite, là.
Donc, le que tu fais lorsque tu arrives, d'abord, c'est un, lorsque tu vois ça, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Deux, t'enlèves tes pompes, tu fous tes pieds dans l'eau, et tu te détends. Et je peux te dire c'est le moment où t'as envie de t'ouvrir une binouze avec ton pote, c'est le moment où tu le fais pas. T'en as juste rien à secouer. Juste le moment. Tu sais, t'as un espèce de paradis pour un cycliste qui arrive ici. Après, tu vois, la première partie de journée qui a été un peu violente, on était content d'avoir ça. Et c'est pareil, là, en mode chrono, ben, même si tu vois ça et que ça t'en bave, ben, tu peux t'arrêter si tu veux, mais t'es plus longtemps chrono dans ce cas-là.
Ouais, ouais.
Ça, c'est... Ouais. tu peux... Christophe Elgert, un grand cycliste d'ultra-distance qui a gagné 4 fois la Transcontinental Race et ce genre de choses-là, a fait le Tour de France, je crois, en 12 ou 13 jours, tu vois, en mode chrono.
Ah ouais, ouais.
Vraiment, chrono, quoi. Donc, voilà, c'est pas le même niveau d'engagement, et tu t'arrêtes pas, quoi. Tu sautes la première nuit, t'avances aussi long que tu peux, tu dors un peu après, tu dors 2 heures par nuit ou 3 heures par nuit, et puis tu continues et tu te poses pas de questions, quoi. Qu'il fasse jour ou nuit, peu importe. là c'était pas du tout l'esprit de notre truc, de notre tour, c'était vraiment on voulait faire quelque chose de sportif. On a fait quand même 250 bornes par jour en moyenne, donc c'est quand même pas trop mal. On a bouffé du dénivelé et puis on a profité aussi, quoi. Il y a des jours où on s'est posé une heure ou deux dans un café parce qu'il faisait beau, que la bouffe était bonne et qu'on était trop contents d'être au soleil, quoi. Non mais c'est vrai, c'est aussi ça. Hein.
Et comment vous avez géré ça d'ailleurs? Parce que bon, vous connaissant tous les deux, sportivement, vous êtes plutôt entreprenant, des battants quand même en termes d'état d'esprit, il faut le dire. Donc comment ça s'est passé la collaboration? Enfin la collaboration, c'était plus qu'une collaboration, mais l'aventure à deux comme ça. En termes d'efforts, vous rouliez à la même vitesse, la fatigue, peut-être que les deux n'étaient pas fatigués en même temps, donc comment ça s'est passé?
On peut quasiment diviser en deux la route. Les 8-9 premiers jours, moi j'étais pas au top. Arnaud roulait plus vite que moi, j'avais un vélo aussi qui était plus lourd que le sien. Et j'avançais moins vite que lui, clairement.
Ok.
Et donc
là, vous rouliez pas ensemble, du coup.
On a roulé ensemble, en fait, jusqu'à avant Seyssel, donc au pied du haut des Alpes. Et moi, je me suis arrêté à Seyssel. Arnaud était devant moi. Il est arrivé. Il a fait 30-40 bornes, peut-être un petit peu moins, je sais plus. Il est arrivé à Annecy, en fait, moi je me suis arrêté à Seyssel. Et c'est comme ça qu'on l'a joué. On s'est dit, c'est pas grave, t'es plus rapide que moi, je partirai plus tôt demain matin et puis on se retrouvera. Ça, c'était un des trucs qu'on a fait. On l'a fait une deuxième fois le jour suivant aussi, où moi j'ai dans le col de la Madeleine, donc c'est 26 km de montée pour se faire plaisir. Je suis redescendu de l'autre côté. Arnaud, lui, il allait plus vite que moi, il était bien en jambe à ce moment-là et il est arrivé au col du Vieux Télégraphe le soir même. Et moi, je me suis arrêté juste en bas, à Saint-Michel-de-Maurienne, je crois, et je l'ai repris le lendemain matin, tu vois.
Ok.
On a fait ça ces deux fois-là et après, on a toujours dormi ensemble. Il y a ces deux nuits-là durant lesquelles on n'a pas dormi ensemble, c'est tout.
Okay.
Mais tu vois, on s'est dit, c'est pas grave, Arnaud va plus vite que moi à ce moment-là, je repartirai plutôt demain matin et puis je me remettrai dessus, tu vois, et puis c'est comme ça qu'on s'est fait.
Okay.
Mais ce qui veut dire, si on prend un tout petit peu de recul, c'est qu'on s'est donné cette liberté-là. C'est-à-dire, on s'est
pas dit, exactement, ouais.
Et de la même manière, tu vois, lorsque Arnaud, lui, j'avais un problème de hauteur de selle où je ne trouvais pas, je me reconnaissais pas, quoi. Je savais que j'étais capable de plus appuyer sur les pédales, j'avais beau essayer, en fait, je m'épuisais plus qu'autre chose. Et en fait, j'ai réglé un peu ma hauteur de selle, différemment, un peu le recul à droite à gauche, et c'est comme ça, en fait, que j'ai retrouvé de la forme et de la puissance, pour appuyer sur mes pédales. Et lorsque j'ai retrouvé ça, j'étais reparti, tu vois. Et lui, Arnaud, avait des problèmes de pied, il le savait depuis avant de partir, il l'avait déjà rencontré aux US et ainsi de suite. Et sauf que lorsqu'on est arrivé à Saint-Chinian, il se demandait à chaque fois, il a dit dans le podcast qu'on a fait ensemble, il disait, mais je me demandais où était la prochaine gare au cas où j'ai arrêté, quoi, complètement, hein, pour remonter sur Paris. Et puis, en arrivant à Saint-Chinian, on était flingué, il faisait chaud, on était à mi-parcours, quoi, en gros, on se tape un resto de ouf, une énorme pizza et tout, trop bien, on se requinque vraiment. Et soi-même, Arnaud m'a dit, attends Jean, il faut vraiment qu'on trouve une solution, sinon c'est plus possible, quoi, en fait. Je lui dis ok, et puis on commence à trouver des solutions, et tu vois, c'est aussi ça qui a fait que on a duré, ça a marché aussi entre nous, c'est qu'on s'est entraidé à un certain moment, on s'est donné la liberté de pouvoir avancer à notre rythme aussi à un moment. Tu vois, après dans les Pyrénées, donc c'est juste pour dire que là, tu vois, à ce moment-là, je l'ai entraidé pour trouver une solution et on a trouvé une qui l'a aidé pour le reste de la course. Un peu plus tard, dans les Pyrénées, ben moi j'étais bien, tu vois, donc j'avançais et tout. En sortant des Pyrénées, ben j'étais bien entre Dax en remontant vers c'était Dax, oui, c'est ça, de Dax en remontant toutes les Landes. Moi j'ai avalé les kilomètres. Tu vois, Arnaud s'est mis derrière moi et puis moi j'ai roulé en fait vraiment à fond pour avancer le plus vite possible parce que je trouvais ça extrêmement pénible ce point-là, donc j'ai tiré tout droit et on a avancé vraiment, tu vois. Et puis à d'autres moments en Bretagne ou en Normandie, bah tu vois, j'aimais bien un peu avancer à droite à gauche et puis on se retrouvait à un autre endroit, mais et ainsi de suite, tu vois. Mais c'est voilà, on se donnait cette liberté de rouler ensemble à certains moments, ouais. Et puis à d'autres moments on n'était plus ensemble et puis on se retrouvait le soir, donc voilà, il y a une grande liberté, je trouve, en fait.
Et ça, vous l'aviez défini avant le départ ?
Pas du tout.
Ok, ça s'est mis en place naturellement.
Ouais.
Cool.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme ça que ça a marché, en fait.
Ouais. Et par curiosité, c'est quoi la solution que vous avez trouvée pour son pied ?
Ouais. En fait, Arnaud a des orteils, en fait, qui sont plus hauts que le plat du pied. Donc, ce qui fait qu'il y a une tension en permanence sur ses orteils qui sont beaucoup plus hauts. Et en fait, lorsque t'appuies en dessous des phalanges, ça permet de détendre les orteils. Les orteils retombent. Okay. Et donc, en roulant une chaussette, on s'est aperçu en fait que ça soulageait les orteils d'Arnaud. Et donc, le lendemain matin, ça c'était un dimanche soir, le lundi matin, la pharmacie du Patelin ouvrait, de Saint-Chinian en l'occurrence, ouvrait. Et à 8h ou 8h30 ou 9h, enfin bref, peu importe. Et Arnaud était rentré dedans pour en trouver des espèces de petits coussinets ou des coussins, tu vois, que tu enfiles et qui permettent de soulager tes phalanges, enfin d'avoir un appui supplémentaire sur tes phalanges pour soulager tes orteils.
Ah ouais, ok. Ouais.
Voilà.
Ok, bon. Mais merci pour le petit détail anatomique d'Arnaud. Ouais. Intéressant.
T'es livré à toi-même, donc à un moment, il faut trouver des solutions. Quoi. C'est quoi la mécanique, quoi. C'est quoi le processus qui est en place pour qui fait que, quoi.
Ouais.
C'est créatif, quoi. Il y a toujours une solution, il faut. Je trouve qu'il y a beaucoup de solutions qui sont possibles. Et puis parfois, tu as besoin de l'aide d'autres personnes pour t'aider pour arriver à tes fins, quoi.
Ouais.
Faut trouver les ressources.
Ouais, clairement, c'est une belle leçon, ça aussi. Tu vois, le fait de. Je trouve ça vachement inspirant de t'entendre raconter comment vous avez, quelque part, vous êtes donné suffisamment de liberté pour. Bon, ok, le projet, vous l'avez fait à deux, mais en réalité, en tout cas, au début, vous ne rouliez pas forcément ensemble, mais vous étiez ok avec ça, ça s'est mis en place naturellement. Et après, par contre, quand il y a des galères qui sont arrivées, que vous ayez réussi à les surmonter. Tous les deux, je trouve que c'est beau en termes de partenariat et d'intelligence, bon, un peu quelque part d'intelligence émotionnelle, j'ai l'impression.
Ouais, mais je crois qu'il y a un autre phénomène aussi qui est arrivé, et naturellement, hein, c'est que je crois que on a co-construit ce truc-là ensemble. C'est-à-dire que moi, j'ai pas dit à Arnaud, non, tu m'attends, et lui, il m'a dit, bah allez, accélère. Tu vois, ça aurait pu être ça.
Ouais.
Voilà, c'est pas comme ça que ça s'est mis en place du tout. La manière dont ça s'est mis en place, c'est de dire bah attends, vas-y, avance, et puis voilà, on se tient au courant, on avait des téléphones, on pouvait se retrouver plus tard s'il y avait besoin, tu vois. Donc mais ça, c'est, on l'avait pas du tout anticipé, et je crois que ça a été en fait je crois que c'est quelque chose qui nous a fait qui a permis, parce qu'on n'avait pas pensé à ce genre de truc-là et parce qu'on n'en avait pas du tout parlé, en fait, hein, on avait parlé uniquement du parcours avant.
Ouais.
Et qu'on s'était dit, bon, voilà, si on arrive à faire 250-300 bornes dans la journée, ben c'est très bien, quoi. C'est à peu près ce truc qu'on avait en ordre de bataille dans notre tête, dans un coin de notre tête.
Ouais.
C'est tout. Et en fait, le fait de pas avoir, d'avoir laissé beaucoup de vide, là où ça peut être anxiogène pour certains, pour nous, en fait, ça nous a permis de créer ce qu'on voulait. De co-créer même quelque chose qui nous a aidé, en fait. Tu vois, ça a été l'inverse, c'est-à-dire que le fait de laisser de la place à la créativité et l'imagination au moment où ça allait arriver, finalement t'es pas en train de te dire oh là là et s'il nous arrive ça qu'est-ce qui se passe, donc t'es déjà en train de te mettre dans une spirale un peu négative, t'es au contraire en train de te dire ben on va laisser du vide, Alors, ça peut être hyper dit comme ça fout les pétoches, mais en fait, dans la réalité, tu te rends compte que, un, tu te bourres le morichon en disant, t'essayes juste, c'est juste ton mental qui est en train de te rattraper en disant, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir un minimum de contrôle sur quelque chose? Et en fait, tu gaspilles de l'énergie, hein. C'est tout ce que tu fais.
Ouais, et tu sais quoi, ça me fait penser à. C'est vraiment marrant que tu partages ça, parce que ça me fait penser à. Il y a plusieurs projets que j'ai démarrés en simultané, et du coup, je m'étais dit, bah écoute, voilà, il faut que je structure vraiment tout ça. Donc, j'utilise une appli qui s'appelle OmniFocus, qui permet tu vois, de faire des listes de tâches avec potentiellement des séquences, etc. Et en fait, il y a un de ces projets où je me suis dit que j'allais aller vraiment dans le détail de la planification, vraiment dans le détail, tu vois. Et en fait, il s'est passé. Exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai eu au bout d'un moment, en fait, je cochais des boîtes sur le, enfin, je cochais des, si tu veux, j'éliminais des lignes de tâches à faire, mais d'un point de vue fun, créativité, bah, j'ai clairement vu une différence. Tu vois, il se passait plus grand-chose. Je courais après mes tâches. Donc
C'est
ouais,
chiant.
c'est chiant, ouais, mais c'est vraiment une bonne leçon, je trouve. Tu vois, que vous avez réussi à enfin, quelque chose que vous avez réussi à mettre en place dans ce projet, mais qui, à mon sens, tu vois, s'applique dans la vie pro, la vie perso. Arriver à lâcher prise quelque part et à laisser de la place à l'imprévu, à la créativité, comme tu dis, et quelque
Faut
part, ça
juste
permet de vivre plus pleinement, quoi, j'ai l'impression.
dans notre cas, oui.
Ouais.
Dans le cas d'une boîte, t'as un environnement qui te dit faut quand même gagner de l'argent à la fin de la fin du mois, quoi.
Ouais.
Donc, ce qui ne veut pas dire que ça soit pas rentable, parce que en fait, ton staff est aussi hyper heureux de participer à un projet, de mettre leurs pattes et ainsi de suite. Donc, tu peux, il y a plein de manières de le voir. Ce que je veux dire, c'est que on était deux, tu vois, on n'était pas une équipe de 10 ou 15 collaborateurs. Peut-être
Ouais.
que ça marche très bien, j'en ai juste pas l'expérience, et peut-être que ça marche très très bien, il faut juste faire l'expérience, c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est que la liste de tâches te permet une productivité où le plaisir est moindre, en revanche, l'efficacité est maximale.
Ouais.
Nous, on était à l'inverse, c'est-à-dire si tu prends la balance opposée, nous, on était plutôt complètement à l'opposé de ça. C'était pas moins bien, ni mieux, ni quoi que ce soit, c'est juste que on l'a fait différemment. Mais ça nous, c'est une forme qui nous correspondait. Peut-être que dans une autre équipe, la forme de la planification de la tâche, ainsi de suite, est beaucoup plus ajustée. Donc je
Ouais.
crois que c'est aussi l'environnement.
Non, mais clairement. Et puis c'est peut-être aussi une question de balance à trouver, tu vois. C'est-à-dire que si je reprends ce projet en particulier sur lequel, enfin, que j'évoquais, clairement la création de ces listes, etc., a aidé. Mais c'est peut-être un niveau, tu vois, le niveau de détail dans lequel je suis allé. Donc, comme tu dis, c'est vrai que c'est voilà, c'est peut-être contextuel, mais aussi une question de dosage, on va dire. Ouais.
Mais c'est bien d'avoir cette expérience-là parce que c'est comme ça que tu l'as appris aussi.
Ouais, non, exactement, exactement. Bon, bah écoute, super intéressant. Et qu'est-ce que tu en retires, toi? Alors peut-être je vais faire plusieurs questions dans la question, mais peut-être déjà d'un point de vue, même si on l'a un petit peu évoqué, d'un point de vue humain, parce que ce défi, tu l'as, comme tu disais, vous l'avez co-créé à deux. Donc, qu'est-ce que toi tu retiens de tout ça et avec quoi est-ce que tu repars, que ce soit en termes de collaboration, de communication, notamment? Et deux, bah, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que ça a déclenché comme envie à venir, que ce soit sportif ou pas, pour toi?
Pour moi, il y a une étape de priorité qui est remontée à la surface. C'est-à-dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est
Ouais.
l'essentiel? Est-ce que ça me nourrit? Autrement dit, pas forcément en termes alimentaires, mais aussi en termes d'émotion, de satiété, de réconfort, de bonheur, de joie, de larmes, de ce que tu veux. Mais comment ça me nourrit? Est-ce que j'ai besoin de cette nourriture-là ou pas? Ça, c'est un vrai sujet. Ça, pour moi, c'est le genre de truc, tu vois, où tu changes, enfin pour moi, en ce qui me concerne, excuse-moi, c'est vraiment un changement un peu de paradigme où j'étais plutôt dans l'excès de tout avant. Et là, je me dis, bah tiens, si je me reconcentre sur l'essentiel, c'est quoi? Mon essentiel à moi. Je suis pas en train de donner des leçons de morale, hein, c'est pas le sujet.
Ouais.
Mais de quoi j'ai envie, de quoi j'ai vraiment besoin, tu vois? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 10 vélos? Alors j'en ai pas 10, mais ou est-ce que juste 2 me suffisent, tu vois?
Ouais.
Voilà. Ou est-ce que, et ça sous-entend de ressentir un besoin physiologique, quoi, pour le coup. Lorsque tu as faim, tu sens que ton ventre gargouille, quoi. Tu as la sensation de la faim. Est-ce que lorsque tu achètes ton quatrième vélo, tu as la sensation d'un quatrième besoin, ou est-ce que c'est une conception mentale? Tu vois? Je suis désolé, t'es un peu caricatural, mais j'essaie simplement
Non,
d'être
mais
clair.
tu sais quoi, ça me parle beaucoup parce que quand on, voilà, à l'époque on travaillait ensemble, en fait, je me suis retrouvé à un moment donné avec quatre vélos dans mon petit 32 mètres carrés parisien. Donc ça, et quand je repense à la situation, c'est, je vois très très bien ce que tu évoques.
Voilà. Mais c'est pareil, après, ça, tu le décuples à tous les niveaux de ta vie. Après, dans tes potes, est-ce que tu as besoin de tout ce monde-là ou pas? Est-ce que tu as besoin de gagner autant? Je vais être un peu franc, hein, mais est-ce que tu as besoin de gagner autant d'argent ou pas? Est-ce que j'en sais rien, moi. Est-ce que tu as besoin. On a beaucoup parlé et échangé sur l'environnement, l'écologie ensemble, et je sais que c'est un sujet sur lequel on se retrouve à beaucoup d'endroits. Est-ce que j'ai besoin de, j'en sais rien moi, de prendre un avion pour partir en vacances? Est-ce que je peux y aller en vélo?
Ouais.
Je tire le trait volontairement, mais c'est juste pour. Voilà comment moi ça m'interpelle. C'est de quoi j'ai vraiment besoin. Est-ce que j'ai besoin d'acheter plein de merdouilles qui me servent à rien, ou est-ce que juste cultiver mon potager, ça me suffit, quoi?
Ouais. Donc ce retour
Ouais.
vraiment à l'essentiel, ou en tout cas à l'essentiel, en tout cas ce qui apporte une valeur ajoutée à ta vie, une vraie valeur ajoutée.
Exactement. Complètement. C'est
C'est
bien
du
résumé.
minimalisme en fait, hein? Non?
Exactement, c'est comme ça que je course, pieds nus.
Ouais.
Oui, mais absolument. Il y a une forme de minimalisme, pas pour tomber, tu vois, sans des excès de radinerie ou de, tu vois,
Ouais.
c'est pas du tout. Au contraire, j'ai levé de l'argent pour des enfants autistes, pour mon filleul qui a atteint une maladie. Enfin, tu vois, donc c'est pas du tout de faire le moins possible. C'est pas ça, mais de faire le nécessaire. Voilà. Mais pour des, ouais, pour, ouais, faire le nécessaire. C'est pas, non, c'est pas consommer parce que c'est disponible et parce que j'en ai les moyens, c'est parce que j'en ai besoin.
Ouais. Et un vrai besoin, je veux dire, c'est ça que j'entends, hein. C'est un besoin quasi vital.
Exactement. Ouais. Vital. Et puis, tu vois, tu peux amener un peu, évidemment, le confort n'est quand même pas désagréable, mais tu vas pas. Bien sûr, j'ai un frigidaire, un four, enfin des trucs un peu évidents comme tout le monde. Tu vois, c'est utile, ça m'est utile, ça m'apporte quelque chose, voilà. Mais je fais cuire ma viande, hein, je ne suis pas un paléo, je sais plus quoi, qui bouffe sa viande crue, voilà. Mais il y a un peu de ce côté-là, c'est de se dire bah, de quoi j'ai vraiment besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin du dernier téléphone d'une grande marque connue, ou est-ce que je peux me passer. Est-ce que je peux m'en passer? Est-ce que je peux attendre la quatrième ou cinquième génération qui suivra? Est-ce que j'en sais rien, moi, tu vois, c'est vraiment est-ce que j'ai besoin de partir aux 8 endroits de la France ou de la planète pour partir en vacances? Est-ce que et peut-être que tu en as besoin, hein, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut dire juste dire se poser la question. Disons, mais à
Ouais.
quoi que ça m'apporte, quoi? En quoi ça me nourrit? Et c'est dur, hein, de faire cet exercice-là, hein. C'est vachement dur, hein.
Ouais, bah ouais, parce qu'il y a un paquet, quand même, un paquet de croyances associées à tout ça, tu vois. Puis bon, on va pas faire du marketing de bas niveau, mais
C'est
on est
clair.
aussi exposé à une quantité de messages tu vois, qui peuvent faire penser qu'on a tout le temps besoin de plus, mieux. Puis tu vois, dans le cadre du sport, si je regarde, bon, ouais, dans le sport, c'est très facile de tomber dans.
Est-ce que j'ai besoin d'acheter un nouveau vélo pour aller plus vite?
Ouais, exactement. Exactement, ouais. Mais ouais, non, clairement, bah écoute, ouais, super. Super intéressant comme message. Et sur la suite alors,
Oh.
qu'est-ce que ça t'a donné, dans quoi est-ce que tu te lances pour pouvoir revenir sur le podcast des frappés et nous partager la prochaine aventure complètement folle. Ce serait quoi le teasing que tu nous fais aujourd'hui?
Il y a quelques courses en fait de vélo en France qui me font très envie, donc j'y participerai. C'est pas forcément des trucs des courses de 5000 bornes, loin de là, bien au contraire. Mais c'est de repasser dans les traces d'anciens cyclistes notamment qui ont fait des courses extraordinaires, qui étaient des athlètes de très très haut niveau dans les années 1910, 1920, 1930, qui ont fait des courses mais hallucinantes en pignon fixe avec en simple pignon ou en double pignon et qui ont traversé des massifs. Il y a d'ailleurs un Suisse qui l'a refait il y a quelques années de ça, Patrick Sibeys, qui a fait une étape de 310-320 bornes, je ne sais plus, à travers les Pyrénées en pignon fixe et sans frein. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça.
Sans frein, mais attends, si on ouvre une petite parenthèse, comment il gère ça sans frein?
En dérapant. En bloquant sa roue arrière.
Ah, vrai, quoi.
À la vraie. Ouais, là, c'est... Mais je le ferai jamais, hein, tu vois, je mettrai des freins sur mon vélo et je recommande à personne de faire ça vraiment sur des longues distances et en descendant des cols en plus de ça. Non, c'est, faut vraiment être entraîné, quoi. Tu vois, il y a des auditeurs, donc faut quand même pas raconter tout et n'importe quoi.
Ouais, ouais.
Il faut quand même être un peu prudent, je veux dire, c'est dangereux. Le mec a l'expérience, il est physiquement, il est extrêmement affûté, il n'y a aucun sujet là-dessus, mais il faut quand même être un peu prudent, quoi. Donc voilà, donc j'ai des petits projets comme ça. Il y a l'année prochaine, il y a aussi une superbe traversée qui est organisée d'un point de vue cyclotouriste, qui est organisée par Stéphane Gibon, qui s'appelle La Réconciliation et qui part notamment des plages du débarquement en Normandie pour finir. Il passe au travers notamment des plaines de la Seconde Guerre mondiale, de la Première et Seconde Guerre mondiale. Okay. En traversant évidemment la Somme, la Marne, Verdun, et terminant, faisant un tour en Allemagne, pardon, pas en Allemagne, pardon, mais en Alsace, et terminant à Belfort, en gros. En passant, donc, tu prends la Première et Seconde Guerre mondiale et tu prends les terrains de bataille de la Première et Seconde Guerre mondiale. Donc, ça va pas être piqué des hannetons. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui me parlent et qui me font plaisir. Il y a des courses qui sont vraiment axées performance, mais qui sont pas du tout organisées avec un organisme et ainsi de suite. Donc, c'est plutôt des routes que j'essaie de faire le plus rapidement possible, en tout cas pour mon niveau et ma condition physique. Et puis, il y a des routes que j'ai envie de voyager, de prendre pour effectuer un parcours, quoi, véritablement.
Waouh, voilà. Bah, écoute, ça donne envie. Si tu devais, on arrive à la fin, si tu devais peut-être, fort de ton expérience de ce Tour de France avec Arnaud et surtout des enseignements que tu en as tirés, qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Alors, c'est un peu la question classique, mais le conseil que tu donnerais du coup, ce serait lequel?
Trouvez un truc fou dans votre tête, allez, et vous préparez-vous et puis allez-y sans vous poser de questions, quoi. Vraiment. Il y a un endroit, on imagine toujours la solution on imagine la solution au problème avant de poser la question. Bref, moi je commencerai par la question et puis je me lancerai.
Commencer par la question et se lancer.
ouais. Tu c'est vraiment ça, c'est de se laisser cette c'est vraiment le choix de la liberté.
Ouais.
C'est vraiment le choix de prendre le temps de choisir ce que je veux faire différemment.
Bah écoute, on retiendra ça, savoir faire le choix de la liberté. C'était génial d'écouter. J'ai bu tes paroles, hein. Il faut définitivement que je recontacte Arnaud pour avoir son histoire aussi de son côté. Mais ça avait l'air incroyable comme expérience. En tout cas, ça fait plaisir pour tous les deux que vous ayez réussi à la co-construire ensemble. C'est vraiment génial. Encore merci d'être venu la partager avec nous. Mais hâte de diffuser tout ça. Je suis sûr que ça inspirera un paquet de gens. On a échangé pas que sur l'aspect sportif. C'est ça que j'ai trouvé vraiment passionnant dans la conversation. Plein d'enseignements. En tout cas, moi, il y a plein de choses avec lesquelles je repars. Tu vois, j'ai pris des petites notes pendant qu'on échangeait. Donc, encore merci pour tous ces partages, Jeanlin. Et puis, je te souhaite tout le meilleur pour la suite, pour tes prochains projets. Et je te dis, j'espère à bientôt.
Ouais, avec grand plaisir, Loïc. Merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappes.com. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao !